Vous êtes sur RTL.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Bah, il faut bien qu'on parle un peu de sport dans cette émission avec les calories qu'on va ingurgiter pendant tout l'été, il faut être honnête. Comment ça va les amis, bonjour.
Très bien, bonjour.
Bienvenue à tous dans RTL vous régale, on est ravis de vous retrouver. Ça va être comme ça tous les jours de l'été, 11h, 12h30. La France et ses richesses, la France et ses terroirs. C'est vrai que chaque jour on va parcourir ensemble des régions. Et puis ses meilleures spécialités. Hier le Pays Basque, aujourd'hui Mulhouse. On vous donne directement la preuve qu'on n'a pas peur des grands écarts. À mes côtés chaque jour, elle traverserait la France pour une flamme-cuche. Elle va vous le prouver dans quelques instants. Vous allez voir, c'est un cri du cœur qu'elle va lancer. Louise Petit-Renaud est avec nous. Bonjour Louise.
Bonjour, bonjour à tous. C'est vrai que je peux traverser la France pour une flamme-cuche. C'est quelque chose, mais pour moi, d'exceptionnel. Je peux en manger matin, midi et soir.
Pour ceux qui n'en ont jamais mangé.
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une tarte flambée, nappée de crème, avec des petits oignons et des lardons qui sont bien revenus à la poêle avant.
On n'est pas loin d'une quiche lorraine dans l'esprit.
Mais pas du tout.
Je m'ai fait l'avocat du diable.
Jean-Michel, qu'est-ce qu'il vous prend ce matin? Alors pourquoi on l'appelle la tarte flambée? Parce qu'elle est cuite à la flamme, ce qui donne ce côté bien croustillant à la pâte. Et si j'ai envie de vous en parler ce matin, avec autant d'engouement, c'est que derrière tout ça, il y a un rite.
C'est-à-dire?
La vraie tradition, quand vous êtes à table dans une auberge alsacienne, les tartes se succèdent à un rythme régulier sans interruption, jusqu'à ce que vous n'ayez plus faim.
Jusqu'à ce que mort s'en suive.
Donc c'est-à-dire que quand il n'y en a plus, on en remet.
C'est dingue.
Et quand ça suffit, on le dit.
Vous avez fait le test, Jean-Seb?
Oui.
Vous en avez ingurgité combien?
Deux.
Ah oui, c'est ça, on va pas beaucoup plus loin quand même.
Oh bah non, attendez, c'est déjà pas mal.
C'est quand même de la pâte à pain, de la crème et des lardons. Hein,
avec faut jamais oignons, oublier ça non plus. Jean-Sébastien, petit de manger, ambassadeur.
Vous êtes carré quand même, vous êtes.
Non, on ne critique pas la flamme-cuche, attention.
Ah mais non, je critique pas, c'est très bon.
Voilà.
C'est très très bon, moi j'adore ça. Mais c'est bon.
Un peu roboratif.
Non.
Dites-moi un mot sur le terroir du jour. Alors évidemment, on est dans l'Aix. Haut-Rhin.
Eh oui, puisqu'il n'y a plus de département maintenant, c'est une communauté, une collectivité alsacienne, même collectivité européenne me semble-t-il. C'est donc le sud, en tout cas, de cette Alsace qu'on aime énormément, et c'est tout ce qui fait l'identité alsacienne qui se trouve entre Colmar et Thann, avec Mulhouse, comme ça, en point d'orgue. On découvre une Alsace qui est chaleureuse, qui est coquette, qui est parsemée de villages où les maisons à colombages avec des murs débordants de géranium semblent se défier en jouant à « c'est moi la plus belle ». C'est un coin de France qui regorge de villages parfois hors du temps avec des allures de contes de fées qui sont comme ça éparpillés au pied des collines vosgiennes. Et puis lorsqu'on redescend dans la plaine, il y a Mulhouse qui apparaît avec sa vieille ville pleine de charme, avec sa somptueuse cité de l'automobile, avec un musée du train extraordinaire. Quand on plonge encore un peu plus au sud, on a le Sungo, qui est un massif avec des paysages qui ondulent doucement avant de laisser apparaître quelques gorges boisées, quelques étangs posés là comme des taches au sein d'un tableau. C'est un coin d'Alsace dont il faut savoir qu'il a été rattaché à la France en 1648. C'était un comté qui a été offert à Mazarin par Louis XIV. Et alors le truc drôle dans cette affaire, c'est que par héritage successif, eh bien, on découvre que ce comté de Ferrette, comme il s'appelait, eh bien, est la propriété actuelle du prince de Monaco.
Mais non.
Qui porte parmi ses nombreux titres celui de comte de Ferrette. Et donc, le prince Albert est chez lui.
Ça pose son nom, quand même. Ah bah, comte de Ferrette.
Bah, il n'y est pas allé souvent.
Ben tiens, le décor est planté. On est en Alsace, les amis. On va à Mulhouse aujourd'hui. Et puis, dans la playlist d'RTL vous régale ce matin, je vous le promets, Benjamin Biolay. Et entre les maisons à colombages, les flammes cuches et la choucroute, soudain une apparition, James Brown. Et puis sur la route des vins, le long des chemins, en goûtant les Gewürztraminer et les autres, vous entendrez peut-être cette douce mélodie de Jérémy Frérot. On est bien, c'est l'été. 11h, midi et demi. Qu'est-ce qu'on est content d'être là tous les jours. C'est en direct, c'est sur RTL. Et aujourd'hui, on va vous partager dans quelques instants nos évidences, nos incontournables de la région dans laquelle on est. Les évidences de Mulhouse, c'est après ça. A tout de suite.
Ne bougez pas, dans un instant, RTL vous régale, revient. passez une bonne matinée sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Mais pas que, avec Jean-Sébastien Petit-Demange et avec Louise Petit-Renaud. Je vous parlais des évidences de Mulhouse. Ma petite chouchoute, ma petite choucroute. Louise, d'où vient-elle cette choucroute?
Alors déjà, après avoir dégusté la tarte flambée, la flamme-cuche, on va se faire une bonne choucroute.
Et on va tordre le cou à une légende urbaine qui veut qu'on raconte à tort que cette choucroute viendrait d'Allemagne.
Mais alors, d'où vient la choucroute? Elle ne vient pas d'Alsace, elle ne vient pas d'Allemagne. La technique de fermentation du chou remonte au 3e siècle avant Jésus-Christ et servait à l'époque à nourrir les ouvriers chinois sur le chantier de la Grande Muraille.
Ah oui, quand même.
Et oui. Et elle est arrivée en Alsace qu'au 15e siècle. Alors, je vous rassure, aujourd'hui, la choucroute d'Alsace est réputée dans le monde entier. Elle détient même une IGP, Indication Géographique Protégée, donc c'est un gage de qualité, un savoir-faire unique. Donc, vous avez compris, la choucroute, c'est uniquement le chou fermenté.
Et quand on parle de choucroute, au sens où on la connaît avec les viandes, etc. Oui. C'est la choucroute garnie.
Voilà.
Oh, pas mal.
C'est ça l'idée.
Ouais. Bon, je voulais vous donner une petite info, mais je vois que vous êtes calé en choucroute.
Écoutez, c'est des années de pratique.
On parle de choucroute garnie, donc c'est la fameuse avec la saucisse de Strasbourg, la palette fumée, le jambonneau, les pommes de terre. On peut aussi parler de choucroute de la mer avec crevettes roses, saumon, haddock.
C'est moins mon truc, moi j'avoue.
Oui.
L'aimez-vous?
Ah, mais moi j'adore. Ah ouais. Mais non, mais moi, me posez pas la question sur cette émission, j'aime tout. J'aime tout en Alsace. Et la bonne nouvelle du jour, la choucroute est très très bonne pour la santé. Elle est riche en fibres, en vitamine C, donc pourquoi s'en priver?
Je peux vous poser une question, elle est essentielle. Connaissez-vous la ville considérée comme...
Pas...
Oh si, si, je peux le faire.
C'est pas gentil.
Roulement de tambour, 11h13, attention. Louise Petit-Renaud, c'est un peu son baptême du feu dans cette émission. Quelle est la ville réputée dans le monde entier comme étant la capitale de la choucroute?
The beat after me.
Faites-nous rêver.
Alors, je m'excuse déjà d'avance auprès des Alsaciens.
Krautergersheim.
Attendez, vous n'êtes pas sympathique. Krautergersheim.
Refais-le.
Non, c'est pas sympa. Krautergersheim.
Krautergersheim.
Voilà.
On le fait bien. Krautergersheim. Voilà. Il faut le travailler pendant la matinée. C'est bon, c'est diététique la choucroute. Hein. C'est bien pour la santé.
Mais vous savez que c'est excellent pour la digestion. Parce que c'est déjà...
C'est déjà fermenté. Bah, c'est presque...
C'est prédigéré.
Oh, c'est horrible ça.
Mais non, mais c'est, oui. Je suis désolé, mais c'est ça la fermentation. Hein.
N'empêche que j'adore ça. Touristiquement, il y a une route des vins pour découvrir aussi les terroirs des environs.
Forcément, avec une bonne choucroute garnie.
Il faut un bon
dont
vin.
Dont l'important quand même est la knack. Nous parlerons tout à l'heure. Eh bien, il faut des bons vins. Et les vins d'Alsace ont été depuis toujours réputés pour ça. L'Alsace a été la première région à créer une route des vins, un vrai produit touristique pour promouvoir ces produits. Un ruban qui parcourt sur près de 160 km du nord au sud, à flanc de montagne, en toute quiétude, en traversant une soixantaine de communes. Et ça permet de découvrir ce monde merveilleux des vignerons, des vignes et des vins d'Alsace. C'est pratiquement 15 000 hectares de terre qui sont cultivés, où il y a des paysages absolument fabuleux, parce que les paysages de vignes sont parmi les plus beaux paysages qui soient au monde. C'est la symbiose entre la nature et ce que peut faire l'homme. Et c'est un peu les sept péchés capiteux.
J'adore ça.
Qu'on trouve en Alsace. Sept cépages autorisés, le Riesling, le Pinot Gris, le Gewürztraminer, le Pinot Blanc, le Muscat, le Sylvaner, le Pinot Noir, sont donc des vins de cépage. Et puis il y a, alors après il y a les grands crus, et puis il y a mon préféré à moi, c'est les Dölzwicker. c'est un petit vin de soif, un vin de comptoir comme on appelle, c'est un vin d'assemblage, c'est frais, c'est gouléant, c'est très agréable comme ça à 9h, avec une petite knack.
Ça a le mérite de faire sourire Louise.
Avec de la moutarde, la knack,
bah, évidemment,
comme ça,
évidemment.
Oh là là, mon Dieu.
Il n'y a pas une fête de Gewürztraminer?
Mais bien sûr que oui, il y a une fête de Gewürztraminer à Bergheim.
Bon, joli.
Ah, là, je l'ai bien dit.
C'est bientôt, là, c'est le 31 juillet.
C'est exactement, c'est au nord de Mulhouse. Alors, sur la place du village, on fête en musique le Gewürz, parce que pour les connaisseurs, on se dit, allez, viens, on va boire un petit coup de Gewürz. Et grâce à un bal guinguette le samedi soir. Et vous pouvez continuer la fête le dimanche en découvrant les vins du terroir de Bergheim.
Tout cela avec...
modération.
Bien sûr. Jusqu'au 23 juillet, dois-je vous rappeler qu'une cascade de cadeaux déferle sur RTL. Des MacBooks, des iPhone 12 Pro, des chèques de 1000 euros, des week-ends de Thalasso, des semaines en vacances en famille VVF. Rendez-vous tout à l'heure à midi moins 5 pour tenter de gagner ce matin un chèque de 1000 euros ou une semaine de vacances dans un village vacances VVF. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3210, 50 centimes d'euros la minute, ou en envoyant RTL par SMS au 74 975 centimes d'euros par SMS. Et je vous souhaite bonne chance.
Tant pis, je vais flâner vers Notre-Dame. Oui. Tant pis, je reste sur le macadam. Pavé, c'est presque rien, mais j'en fais tout un drame. Yeah.
Allez, deux voix plutôt qu'une. Benjamin Biolay en duo avec Adé, c'est la chanteuse du groupe Thérapie Taxi qu'on adore. Et la chanson est le troisième extrait de Grand Prix élu album RTL de l'année 2020 et désormais déjà disque de platine. Sur nos platines, dans quelques minutes, Jean-Sébastien Petit-Demange, le DJ d'RTL vous régale, qui va vous faire danser au son de Mulhouse et de ses marchés de Noël. On en parle dans quelques instants. Allez, jingle bells, à tout de suite.
11h, 12h30.
RTL vous régale.
RTL. 11h, 12h30. RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
RTL vous régale tous les jours de l'été, 11h, 12h30. Qui aurait pu s'appeler aussi RTL vous balade, RTL vous promène, parce qu'on va faire des petits tours et des détours dans toutes les villes que nous allons vous inviter à visiter. Alors c'est vrai, on va pas se mentir, Jean-Sébastien, Mulhouse généralement, et là on va tordre le cou à une idée reçue, c'est que c'est le genre de ville dont on ne parle qu'à Noël.
Ah oui, parce qu'il y a une habitude de parler des marchés de Noël, évidemment, et puis de laisser courir pour le reste de l'année. Mais Mulhouse et le sud de l'Alsace ne manquent pas d'attrait en été. C'est un endroit absolument magnifique. D'abord, Mulhouse, c'est une cité qui possède un patrimoine assez exceptionnel. Le centre ancien aligne les belles façades de maisons, d'immeubles qui pourraient faire croire qu'on est en Suisse. La place de la Réunion, c'est le cœur, c'est le centre du quartier historique. Et on y trouve là-bas l'ancien hôtel de ville. C'est une grande demeure typique de la Renaissance rhénane, couverte de fresques en trompe-l'œil. Vous avez également le temple Saint-Étienne qui date du 19e
Et vous avez la plus ancienne pharmacie de France. Elle date de 1649. C'est la pharmacie Aulis. Elle est absolument magnifique. Et puis, on a en contrepoint la ville issue de la Révolution industrielle. Un quartier qui raconte l'aventure d'une ville qui a fait fortune à partir du XVIIe siècle grâce au travail, grâce à son ingéniosité, à son industrie. Ça a commencé par les étoffes imprimées sur coton venant d'Inde. Et dans un des « Le saviez-vous » du guide du Routard Alsace, vous allez apprendre que le succès fut tel que ce qu'on a appelé les Indiennes anéantirent le tissage du lin en Bretagne et causèrent des difficultés énormes aux soieries lyonnaises. Colbert a carrément été obligé d'en interdire le commerce dans le royaume, puisque Mulhouse était une ville indépendante. Et on a commencé à faire des règles pour limiter la mondialisation, hein, comme ça qu'on n'a rien inventé en matière de commerce au XXIe siècle. En attendant, il y a un musée qui est tout simplement exceptionnel à découvrir. 6 millions d'échantillons de tissus provenant de toutes les époques, de toutes les régions du monde. Je peux vous dire que vous avez le temps de le visiter, parce que si vous les faites une par une, ces 6 millions de pièces de tissus, vous n'avez pas fini. Alors évidemment, vous avez la cité de l'automobile qui est sublimissime, on en parlera tout à l'heure.
Oui,
la cité du train, c'est également un endroit unique, le plus grand musée ferroviaire d'Europe. Une collection incroyable sur 100 000 mètres carrés d'une centaine de wagons de voitures de luxe. Alors évidemment, 100 000 mètres carrés, c'est faut de la place, hein, pour poser une locomotive. Hein. Vous mettez pas ça dans votre salon. Donc
c'est là qu'on trouve les voitures de l'Orient Express.
Exactement. Vous avez également la voiture, le wagon impérial de Napoléon III. Et puis pour finir, à côté de Mulhouse, vous avez le plus grand écomusée d'Europe, également de France. C'est là, on a carrément démonté une dizaine de bâtiments typiques qui allaient être détruits. On les a restitué dans cet écomusée. Ça fait partie du patrimoine du sud de l'Alsace, au même titre que toutes les gourmandises qu'on peut trouver là-bas, au premier rang desquelles.
Vous parlez de gourmandises ?
Le Kouglof.
Eh ouais, on va en parler. Vous connaissez Laurent Chieny ?
Bah oui.
Si vous ne le connaissez pas, je vous le présente. Bonjour Laurent.
Bonjour,
bienvenue,
bonjour.
Bienvenue sur RTL, bienvenue dans RTL vous régale. Pâtissier chocolatier, on est à Riedisheim, tout à côté de Mulhouse. Jean-Sébastien évoquait le Kouglof qui se dresse tel un phare dans la nuit alsacienne.
Qu'est-ce que c'est bon.
C'est un incontournable ça. Je précise que le vôtre, il vient d'être élu coup de cœur par le guide Goemio, c'est quand même pas rien.
C'est bien ça, oui.
On rappelle ce que c'est le Kouglof pour les non-initiés.
Voilà, alors en allant à l'essentiel, c'est une brioche dans laquelle on rajoute des raisins. Et ensuite, ce qui est vraiment très important, c'est la cuisson qui doit se faire dans un moule en terre cuite.
Pourquoi ?
Parce que c'est la forme même du Kouglof. C'est en forme de couronne qui est légèrement côtelée tout autour avec un trou central et des amandes qui sont posées sur le dessus.
Mais je voulais dire, pourquoi la terre cuite ? Ça veut dire que si on a un moule en acier, oui, ou quoi que ce soit, à la maison, ça ne va pas donner le même résultat que si vous le faites dans un moule,
ouais,
en terre cuite ?
Alors, vous avez tout à fait raison. Vous allez avoir un Kouglof, mais ce qui va faire le petit plus, c'est effectivement le goût qu'on arrive à retrouver avec cette terre cuite qui est un peu particulier, c'est difficilement explicable. Le mieux, c'est finalement d'en goûter.
C'est comme pour le Beccaroff.
Pour être très honnête et très modeste, Laurent Chieny, pourquoi est-ce que le vôtre a été élu coup de cœur par le guide Goemio ? Vous savez pourquoi ?
Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait très plaisir.
J'imagine.
C'est parce que vous le faites avec beaucoup d'amour.
Vous avez entièrement raison. mais le petit secret qu'il faut pour un bon Kouglof,
c'est ce que j'attendais.
Voilà, c'est surtout ne pas être pressé. C'est-à-dire que lorsqu'on fabrique notre Kouglof, on le fabrique sur 3 jours. Premier jour, on fabrique, on pétrit la pâte. On va la laisser tranquillement au frigo durant une nuit pour que la fermentation se passe tout doucement. Le deuxième jour, on va détailler la pâte, la façonner et la mettre dans les moules, donc en terre cuite. Et ensuite, on va de nouveau laisser au frigo tranquillement et on va commencer à avoir une petite fermentation, une chauffe tout douce en pleine nuit pour que le troisième jour, on puisse faire la cuisson.
Ah oui, et ça se mérite quand même. Hein.
Voilà, mais c'est ça. Il faut pas être pressé. Mmh. Et on arrive à développer des arômes différents.
J'aime bien cet état d'esprit. Ouais. Ne pas être pressé, c'est exactement ce qu'on va essayer d'insuffler dans cette émission dans RTL vous régale. On va prendre notre temps, on va vous expliquer les choses, on va vous raconter la France et les produits. Il n'y a pas que le Kouglof chez vous, il y a la Forêt Noire. Il ne faut pas oublier qu'on est tout près de l'Allemagne.
Exactement. La Forêt Noire, on est à même pas une demi-heure de la Forêt Noire allemande. Ah oui. Et c'est vrai que ce gâteau emblématique de l'Allemagne est devenu, on va dire, un incontournable en Alsace. Et on fait effectivement une Forêt Noire chez nous, qui reprend exactement les marqueurs gustatifs.
Génoise au chocolat, hein, imbibé de kirsch, crème fouettée, voilà. Cerise griotte.
Voilà,
ça exactement. Ça coûte combien une Forêt Noire?
Alors, si...
On, ça dépend de la taille.
Voilà, ça dépend de la taille. En Alsace,
c'est pas ce qui compte. On
aime bien être généreux. On va dire qu'une Forêt Noire pour 4 personnes, qui peut servir très bien pour 5 voire 6 personnes, on va tourner aux alentours de 20 euros.
Voilà. Laurent, moi, vous savez, il y a un truc extraordinaire qui se passe avec, en ce moment, les boulangers pâtissiers en France ont lancé le label, la marque Boulanger de France. Et c'est oui. Absolument génial parce que c'est un vrai label qui a été engagé de savoir-faire, de fraîcheur. Tout est fait sur place dans chaque boulangerie, dans chaque pâtisserie. Et on est en train de retrouver, avec vous, la Forêt Noire, avec le Kouglof, on retrouve des vrais éclairs frais, on retrouve des millefeuilles qui sont absolument sublimes, avec un feuilletage qui a été fait le matin. Moi, c'est un plaisir de retourner dans les pâtisseries, depuis que les boulangers pâtissiers, la Confédération française, a lancé cette marque. Et il faut vraiment les acclamer pour ça.
Et on est là
pour
ça.
C'est fabuleux.
Louise.
Ouais, mais je suis complètement d'accord, Jean-Sébastien. Et surtout, évidemment, la Forêt Noire vient d'Alsace, mais aujourd'hui, c'est un dessert qui revient à la mode. Et tous ces classiques reviennent à la mode.
Exactement.
Et notamment notre ami Cyril Lignac, qui a cette fameuse Forêt Noire dans ses boutiques. Mmh. Donc on peut en trouver aujourd'hui partout en France.
C'est génial.
Et revenir, voilà, ces vraies traditions. Un bon Saint-Honoré, tout ça.
Laurent Kieny, à côté de la pâtisserie chocolaterie, il y a le restaurant familial, parce que c'est encore une fois une histoire de famille, la maison Kieny. Le restaurant, il est tenu par votre belle-sœur. Et parmi les coups de cœur de vos clients, on trouve l'incontournable foie gras poêlé et sa choucroute.
Voilà.
Et on disait tout à l'heure, on est peut-être moins tenté par le poisson quand on est en Alsace. C'est un tort. Vous faites un cendre absolument magnifique.
Oui, alors le cendre qui est réalisé au restaurant, juste à côté, en réalité, ils vont déposer, avant la cuisson du poisson, une très fine couche de Kouglof. Et ils vont commencer la cuisson, donc côté Kouglof, de façon à avoir une croûte un petit peu croustillante. Et donc vous allez avoir...
Donc c'est une cuisson à l'étouffée ?
Non. Vous allez avoir le filet de cendre qui va être bien moelleux, une fine, très fine couche de Kouglof croustillante dessus. Le tout repose sur une duxelle d'escargot avec quelques petits légumes. Et c'est accompagné avec une sauce au réfort.
Oh non, 11h30, première chair de poule de l'émission, voilà.
On peut venir, Laurent, ce midi ?
Gare de Lyon-Mulhouse, ça va faire là.
Alors, la pâtisserie est ouverte aujourd'hui, le restaurant ouvre demain.
Bon, si vous n'aviez pas le moral, franchement, vous savez quoi ? Je peux renaître de ce cendre.
Magnifique.
Vous êtes le phénix alsacien, Laurent. La maison Kieny, Laurent Kieny, pâtissier chocolatier à Riedisheim, à côté de Mulhouse. Je vais vous dire un truc, c'est pour des gens comme vous, pour des passionnés comme vous, et des gens qui travaillent les produits comme vous, qu'on fait cette émission aussi.
C'est extra, super.
On vous embrasse et on vous souhaite un bel été.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Laurent.
Merci à vous.
Louise,
belle journée.
Échauffement, étirement, mise en condition.
Je suis au taquet.
Prête pour les challenges de Louise, dans un instant, sur RTL.
Ne bougez pas, dans un instant, retour de RTL vous régale.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
Je répète, comment est votre blanquette? Les petits challenges de Louise Petit-Renaud, ça va être comme ça tout l'été, tous les jours dans RTL vous régale. Louise répond chaque jour à vos questions. Si vous avez besoin, évidemment, d'astuces, de conseils, d'idées, recettes, à la clé, on va vous offrir une montre RTL à chaque fois, ainsi qu'un guide du routard achète de votre choix. Vous êtes prête, Louise?
Je suis prête.
Car Marie-Claude est à Saint-Palais-sur-Mer. Je sais que vous êtes, Louise, personnellement très attachée à l'anti-gaspillage.
Oui.
Et à tout ce qui touche au circuit court, etc. On en parlera dans cette émission. Mais l'anti-gaspille, c'est capital. Marie-Claude, elle a une salade flétrie dans son frigo. Elle ne veut pas l'acheter. Et elle a mille fois raison. Qu'est-ce qu'on en fait?
Alors surtout, on ne jette rien. Vous n'hésitez pas à me poser vos questions par rapport à ça. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Alors, Marie-Claude, si vous avez une salade flétrie, qu'est-ce qu'on fait? Vous la trempez dans de l'eau tiède 10 minutes, puis dans de l'eau froide. Donc ça fait un petit choc thermique. Et la salade va retrouver donc tout son croquant et ses couleurs. C'est un peu comme nous quand on est un peu flétri.
Mmh. Vous vous trempez dans un bain d'eau chaude et puis c'est le principe du hammam ou du sauna. Quoi.
Voilà, exactement.
Bon, c'est bien, c'est donc 10 minutes dans de l'eau.
10 minutes dans de l'eau tiède, puis dans de l'eau froide, choc thermique.
Et puis on fait quoi avec cette salade du coup?
Alors justement, ou alors si vous n'avez pas envie de faire ces deux bains, vous pouvez faire une salade avec des œufs, de la crème et du fromage râpé. Comme ça, ça fait un peu une salade mollassonne, mais c'est pas mal aussi.
Est-ce qu'on peut cuire la salade qui est un peu flétrie? Moi, je me pose la question.
Oui, on peut.
J'adore
faire,
les salades
évidemment.
Cuites, moi. Est-ce qu'on peut en faire des soupes aussi? C'est important de ne pas les jeter. Soupe de salade, on n'en parle pas assez souvent. L'astuce, c'est quoi?
C'était de lui redonner un petit peu de forme.
Évidemment. Dorothée est à Saint-Malo. Elle s'est lancée dans la préparation d'un gâteau au chocolat. Sauf qu'elle vient de se rendre compte d'un truc, elle n'a pas de beurre.
C'est bête.
Ouais. C'est ballot.
Déjà, il faut savoir que le beurre se congèle.
Mais hein, bien sûr.
Voilà, donc on peut faire des provisions. Mais j'ai une astuce très surprenante. Vous pouvez remplacer le beurre par de la courgette râpée.
Ça goûte la courgette ou pas?
Et non, absolument pas. Ça n'aura pas le goût de la courgette et on va retrouver le côté fondant onctueux du beurre. Alors, premièrement, c'est régime, c'est économique. Donc, pour faire un petit peu l'équivalence beurre-courgette, vous remplacez 100 g de beurre par 150 g de courgette. Vous pouvez mettre ça dans les gâteaux, les brownies, les gâteaux au yaourt, tout ce que vous avez envie de faire.
Il n'y a pas de goût de courgette?
Non, il n'y a pas de goût de courgette, Jean-Michel, bon. Je vous l'assure.
Merci. Il n'y a pas de goût de beurre non plus. Hein.
On reconnaît bien là, Jean-Sébastien. Ça goûte quoi du coup? Si ça ne goûte ni la courgette, ni le beurre.
Ça n'a pas de goût.
Ah, ça n'a rien.
Arrêtez.
Non, je vous charrie. Pour donner un challenge à Louise, vous n'hésitez pas à vous envoyer par SMS le mot régal, suivi de votre message au 64 900. Dans un instant, l'ambassadeur d'RTL vous régale. Il est 11h38 et soudain...
Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice. So nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice. So nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, I got a year. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't.
I feel good. James Brown, rebaptisé pour l'occasion, James Brownie, évidemment, dans RTL. Vous ?
Aïe.
Allez, à tout de suite, bougez pas.
Jean-Michel Zeka, jusqu'à 12h30.
RTL vous régale. Passez une bonne matinée sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et puis dans cette émission l'été, on va vous montrer qu'on peut vous surprendre aussi, parce que même si nous sommes à Mulhouse aujourd'hui et dans l'Alsace en général, eh bien l'ambassadeur qui va nous faire découvrir sa région, ses coups de cœur, ses incontournables, c'est Aurélien Weisrock. Il est directeur de la cité de l'automobile à Mulhouse. Il n'est pas question de Kouglof, il n'est pas question de choucroute, de rien du tout. Bonjour.
On peut en manger dans les voitures.
On peut, oui, mais ça tâche. Aurélien, bonjour.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous.
Bienvenue, bonjour. Bienvenue sur RTL. C'est vrai, Aurélien Weisrock, on ne peut pas passer un séjour à Mulhouse sans venir vous faire un petit coucou à la Cité de l'Automobile. C'est la plus importante collection de voitures du monde.
Oui, on a cette chance d'avoir à Mulhouse la plus grande collection automobile au monde, donc par le volume, puisqu'il y a 450 voitures qui sont présentées au public tout au long de l'année, mais surtout par la qualité, parce qu'en fait, venir voir un musée d'automobile, ce n'est pas comprendre que c'est juste une machine technique. C'est redécouvrir qu'il y a des inventions qui datent depuis plus de 100 ans. Et par exemple, la première voiture qui franchit les 100 km/h, nous sommes en 1899, elle s'appelle la Jamais Contente. Et cette voiture, par exemple, c'est une voiture électrique. Voilà des choses qu'on peut découvrir.
La première voiture qui a franchi les 100 km/h était électrique. Ça veut dire précurseur quand même à l'époque. Hein.
Oui, c'est ça. Ça nous permet aussi de nous dire que tous les débats qu'on a aujourd'hui, il faut peut-être un peu regarder de temps en temps.
Il faut relativiser.
Il y en a déjà qui ont réfléchi. Mm-hmm. Ouais, vraiment. Il faut relativiser. On est un peu pris dans l'immédiateté de l'information. Et on peut prendre du temps.
Il faut prendre
du temps aussi pour découvrir. Pardon, je ne voudrais pas
je vous en prie.
Interrompre. Qu'une voiture aussi, c'est une pièce. C'est une œuvre d'art. Au milieu du 20e siècle, ces voitures-là sont designées, dessinées, carrossées à la main, et on obtient toute une figure, on va dire, de la culture, de la mode de cette époque-là. Voilà, c'est aussi ça, c'était un peu les deux volets que je voulais vous
évoquer. C'est un peu le Louvre de l'automobile.
La cité de l'automobile est considérée comme le Louvre de l'automobile.
Voilà. 450 voitures qui racontent l'histoire de l'automobile. Et alors, parmi vos collections, il y a des pièces évidemment maîtresses. La collection Bugatti, la plus grande collection Bugatti du monde, avec notamment la Royale.
Bah oui. Oui, c'est ça. C'est que, alors, le musée accumule 123 Bugatti réels d'époque, qui explique pourquoi cette famille est devenue la marque automobile aujourd'hui une des plus prestigieuses encore au monde. Et donc Ettore Bugatti a commencé à développer sa marque au début du XXe siècle en Alsace, à 80 km de Mulhouse.
C'est pas pour rien qu'on le surnommait le sorcier de Molsheim.
C'est ça, oui. Et Ettore Bugatti a l'un des credos de dire « rien n'est trop beau, rien n'est trop cher ». Alors non pas pour la valeur de l'objet, mais parce qu'il avait le sens de la perfection. Et cette perfection, il l'a poussée dans la technique et dans le design. Donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant, et on peut voir l'évolution de la marque à la fois dans la course automobile, là où la marque s'est fait connaître, mais ensuite sur la route pour monsieur et madame tout le monde de l'époque, plutôt de la haute société quand même, mmh. Il fallait avoir les moyens, mais c'est vraiment ce que représente cette marque, et donc nous présentons entre autres deux Bugatti Royale. Les Bugatti Royale sont des voitures exceptionnelles qu'a fait Ettore Bugatti pour les grands rois ou les présidents dans les années 30. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas à la vente, et il n'en vendra que 6. Et nous en détenons 2. Donc aujourd'hui, les voitures sont considérées les plus chères, les plus rares au monde.
Entre 50 et 70 millions d'euros, je pense.
Les usines Bugatti sont toujours en Alsace, sont toujours à Molsheim, et c'est là-bas où on fait la Chiron, hein.
Exactement, nous sommes à 80 km de l'usine actuelle. Alors, on dit usine, mais c'est plutôt un atelier d'artisans,
ouais.
Et d'artistes. C'est de la haute technologie, hein, vraiment, aujourd'hui, Bugatti. Donc, sont fabriqués aujourd'hui les Chiron, les Evo, ouais. La Santo Dici, puis la voiture la plus chère du monde, qui était la voiture noire, a été fabriquée dans ces ateliers.
Ça veut dire que Ronaldo est venu acheter sa Chiron là-bas, c'est ouais. Dingue. C'est
alors
dingue.
Ça...
est-ce qu'il a mangé de la flemme cuche?
C'est pas le genre de régime,
non,
à mon avis.
Jamais.
Non, je précise précise que la Cité de l'Automobile propose un service génial à tous les amateurs de belles voitures, puisque si vous êtes visiteur, vous pouvez essayer ou louer des voitures de collection, Ford Mustang des années 50, Lamborghini, ça dure 20 minutes, c'est un rêve de gamin. Et pour les budgets un peu plus élevés, ben, on peut conduire la voiture de ses rêves en parcourant la région de l'Alsace toute une journée. Le parcours débute à Colmar, ça aboutit chez vous à la Cité de l'Automobile en passant par les plus beaux villages du vignoble. Merci mille fois Aurélien Wesrock, directeur de la Cité de l'Automobile de Mulhouse, on passera vous voir.
Merci.
Merci.
Et soyez prudents sur les routes de France.
11h-12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
RTL. Le grand jeu RTL de l'été.
Il faut psychologiquement se préparer à gagner les plus beaux cadeaux de l'été jusqu'au 23 juillet sur l'antenne d'RTL. Des MacBooks. Des iPhone 12 Pro, des chèques de 1000 euros, des week-ends de Thalasso et des semaines de vacances en famille avec VVF. Vous allez tenter de gagner ces cadeaux chaque jour, également dans RTL vous régale, à peu près à la même heure, c'est-à-dire aux alentours de 11h50. Élodie est avec nous depuis le Crotoy dans la Somme. Élodie, bonjour.
Alors, c'est Eddy.
Ah pardon, c'est ma fiche, d'accord, très bien. Eh bien, je viens de vous rébaptiser. C'est-à-dire, notre candidate est un candidat.
Je vous confirme.
Je suis désolé, comment ça va, Eddy?
Écoutez, ça va très bien, oui.
Je suis désolé. Vous qui allez partir en vacances avec votre femme et vos deux enfants. Votre femme s'appelle peut-être Élodie, c'est ça le truc?
Et non.
Même pas.
Elle s'appelle Caroline.
C'est pas mon jour de chance.
Bien tenté.
Ouais, je l'ai tenté. Qui ne risque rien? Bon, Eddy, vous allez pouvoir gagner un chèque de 1000 euros ou une semaine de vacances en famille vers de nouvelles expériences dans un des 100 VVF en France, décidément. Je vous offre la possibilité pour cela de jouer avec Bérénice Bourgueil, que vous retrouvez tous les jours sur RTL dans le Grand Quiz, ou avec Stéphane Rothenberg, son complice. Dites-nous, écoutez, quel est votre choix?
Je vais choisir Bérénice Bourgueil.
Allez, Bérénice Bourgueil qui va vous permettre de gagner ceci.
Et vous savez quoi? L'été commence bien pour vous. Vous venez de remporter une semaine de vacances en famille dans un des 100 VVF de France. Vraiment bravo, hein, félicitations.
Franchement, elle aurait pu ajouter bravo. Super. Elle aurait pu ajouter bravo Élodie quand même.
Ouais, quand même.
Un minimum. Eddy, vous partez en vacances en famille, c'est sympa, franchement.
Mais c'est magnifique.
Vous allez pouvoir choisir votre village VVF en France où vous allez faire des randos, du paddle, du VTT, du cheval, du rafting et beaucoup, beaucoup d'autres choses. VVF, c'est là où tout commence. On vous souhaite de très très belles vacances et merci d'écouter RTL.
Merci à vous.
À bientôt, Eddy.
Oui.
32,10, 50 centimes d'euros la minute, où on voyait RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. Je vous souhaite bonne chance.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30.
RTL vous régale. 11h-12h30.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mes amis?
Nous, ce qui nous fait plaisir dans RTL vous régale, évidemment, c'est de vous emmener par la main sur les plus beaux marchés de France aussi. On vous régale du côté de Mulhouse aujourd'hui. C'est vrai que le temps des vacances, c'est aussi prendre le temps de flâner le long des étals, de ces marchés de campagne, d'acheter des bons produits, de rencontrer les gens qui les vendent, qui les produisent parfois à la ferme. C'est une des meilleures façons de s'imprégner de l'ambiance et de l'âme d'une ville. On va vous proposer donc des tours de marché tout l'été. À Mulhouse, comment ça se passe?
Il y a un marché que j'aime beaucoup à Mulhouse, c'est le marché du canal couvert qui a été construit en 1908 au-dessus du canal de dérivation de l'île. C'est une belle halle couverte qui a été magnifiquement restaurée en 2001. Et vous avez, c'est là où on trouve des bouchers, des charcutiers, des poissonniers, des pâtissiers, des épiciers aux étals qui abondent de produits aux effluves très voyageuses. Vous avez également quelques très beaux torréfacteurs qui vendent à la fois thé et café. Et ça fait partie de ces marchés qui sont vivants, qui sont très colorés. Il y a 350 commerçants sous cette halle du marché du canal couvert. Et ça y va à tout. Hein. Ils sont beaux méradis, ils sont les belles massages. Non, mais c'est extrêmement vivant. C'est très chaleureux, l'ambiance est assez extraordinaire. C'est un immense brassage de population dans ce marché. Et évidemment,
vous auriez pu me dire, quand on parle de marché à Mulhouse, oui, ah bah oui, c'est le marché de Noël, forcément. Mais non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas qu'un marché sur le mois de l'avant à Noël. Vous m'en parliez tout à l'heure. Non, mais ne faites pas cette tête, Jean-Michel. Mais, c'est vous qui m'en avez parlé.
Je sais, et c'est pour ça que je dis, c'est important d'en parler, même quand c'est pas Noël.
Et ben voilà.
Après, ça peut être Noël tous les jours. Faut pas me chauffer, faut pas me chercher.
Il y a des chalets qui vont pouvoir vous proposer du vin chaud à la cannelle.
C'est exactement ça.
Dans des effluves de douce chaleur,
tellement.
Avec la nuit qui tombe vers
mais tellement, non, tellement, non. Tellement. Bon, on a au téléphone Marc.
Oui, bonjour.
Marc, bonjour, comment ça va?
Ben ça va, un peu désolé pour vous, pour la défaite des Diables Rouges, mais bon.
On va pas commencer. Alors Marc, on va pas commencer comme ça. D'autant que vous, je sais que vous êtes pas loin de la frontière belge, puisque vous êtes à Comines.
Ouais.
Voilà. Donc me chauffez pas là-dessus, je vous en supplie.
Ah, c'est suffisamment. Pas, vous savez quoi? Plus mauvais que vous. Alors,
non mais vous savez quoi? Bon. J'ai des origines italiennes, je vais me rattraper ce soir. Le mec retourne sa veste en direct. Bon, vous êtes là pour le défi frigo d'aujourd'hui, Marc.
Voilà, tout à fait.
Un produit du frigo ou des placards tirés au sort. Jean-Seb et Louise ont 3 minutes le temps des infos de midi pour imaginer une recette qu'ils vont vous livrer en 1 minute 30. On joue pour un week-end au cœur du Beaujolais, au magnifique château de Pizé, un château hôtel 4 étoiles. On va jouer avec quoi? Ce midi.
Des côtelettes d'agneau.
C'est bien ça, des côtelettes d'agneau. Vous bougez pas, on s'en reparle dans quelques instants. Ça s'est passé comment hier? On rappelle, victoire
Moite-moite.
C'était moite-moite, hein, oui, c'est ça. On a mis tout le monde d'accord, voilà. C'était un but partout, très bien. Marc, vous ne bougez pas, les deux recettes arrivent, je les mets à contribution dans quelques instants. Tiens, en fait, je m'adresse à vous si vous cherchez un logement à vendre ou à louer. Vous écoutez RTL, il est midi. Les infos, Olivier Bois.
Rebonjour, et à la une ce rituel qui se répète génération après génération pour beaucoup de terminales qui étaient ce matin à 9h devant les panneaux de leur lycée pour voir s'ils avaient obtenu le bac. Les résultats sont donc tombés, on n'a pas encore les statistiques nationales, mais elles devraient être bonnes, hein, sachant que du fait de la crise sanitaire, 82% de la note était déjà acquise par le contrôle continu. Manquaient en fait principalement les résultats de ce tout nouveau grand oral. Normalement, en année classique, on est autour en France de 88% de taux de réussite. L'an dernier, record déjà à cause de la crise sanitaire, on était passé à 95% de taux de réussite et donc le chiffre devrait être assez élevé encore aujourd'hui. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour.
Vous l'avez eu votre bac, vous Pascal, il y a quelques années. Ça reste une émotion particulière,
mais
on le voit encore ce matin.
C'est quasiment la seule de ma vie et c'était effectivement il y a quelques années maintenant. Mais j'ai envie de vous parler en revanche d'une information qui va attrister beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. C'était une personnalité reconnue, une figure de la lutte contre le cancer. Le médecin généticien Axel Kahn nous a quittés à l'âge de 76 ans après avoir combattu la maladie. Et vous avez peut-être suivi son blog ces derniers jours où il décrivait par le menu, si j'ose dire, les instants qu'il vivait. Et je l'ai eu, moi, au téléphone il y a un mois, et c'était tout à fait glaçant d'échanger avec lui, puisqu'il savait précisément par toutes les phases par
même
lesquelles
si
il
lui
allait
afficher une grande sérénité.
Oui, c'est ça qui était glaçant. C'était, et donc vous pourrez évidemment témoigner, vous aussi, c'est un sujet difficile, le cancer qui touche beaucoup de familles en France. Faut-il organiser une primaire à droite? C'est un sujet qui nous intéresse également. Êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 64 ans? C'est la réforme des retraites. Le bac, vous l'avez dit, 715 000 candidats. L'année scolaire qui touche à sa fin, vous pourrez nous en parler. Le festival de Cannes, vous fait-il rêver? C'est un cinéma élitiste. Voici les sujets du jour. Et j'avais une interrogation pour tout vous dire à vous poser.
Pascal.
J'ai mal compris le concept que j'ai entendu à la fin de votre émission, de la première partie. On va jouer avec les côtelettes d'agneau.
Oui. C'est vrai que sorti de son contexte, la phrase peut surprendre.
De jouer avec des côtelettes d'agneau.
Vous n'avez jamais jonglé avec des côtelettes d'agneau?
C'est quelque chose.
C'est tort, Pascal.
Bon, déjà, faire une côtelette d'agneau, je vous ai dit, mais difficulté dans la cuisine française. Mais j'ai mal compris ce concept. Donc j'attends la deuxième de nous.
Vous allez voir, c'est deux recettes originales à base de côtelettes d'agneau. Et pour les gens comme vous qui ont quand même deux mains gauches en cuisine, ça peut servir. Merci Pascal.
À tout à l'heure Pascal.
Vous venez en survêtement désormais au travail, cher Olivier Bois.
On se détend depuis qu'on n'est plus filmé.
C'est
On reste digne quand même.
Hein. On est en roue libre.
Alors, dans le reste de l'actualité quand même, Emmanuel Macron qui reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux à l'Élysée pour parler de la relance du contexte sanitaire et évoquer éventuellement une reprise de la réforme des retraites, même si les syndicats y sont très majoritairement opposé. Le sport, c'est l'étape du jour sur le Tour de France entre Albertville et Valence, qu'on suivra évidemment sur RTL toutes les demi-heures à partir de 13h20. Et puis avec le club Jalabert ce soir à 13h30. Et la première demi-finale de l'Euro ce soir à 21h, Italie-Espagne à Londres, dans le stade de Wembley qui sera plein, 60 000 spectateurs attendus. Demain, ce sera Angleterre-Danemark. Les courses à Vichy, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 16, le 12, le 10, le 8, le 6, le 15 et le 7. La dernière minute, c'est le 12. Un mot de météo pour terminer. Il fait frais, allez, on va dire, pour un 6 juillet sur la moitié nord, entre 16 et 21 degrés cet après-midi. Le temps qui est humide et venteux de la Bretagne aux côtes de la Manche, et il fera beau et chaud en revanche autour de la Méditerranée. La maximale, c'est 30 degrés cet après-midi à Ajaccio. Il est midi 4 sur RTL, Jean-Michel Zeka, on vous retrouve avec vos côtelettes d'agneau.
Je le sentais venir, ça. C'était Olivier Bois. Merci beaucoup, prochaines infos sur RTL tout à l'heure à midi.
RTL.
Jean-Michel Zeka vous régale jusqu'à 12h30.
J'ai effectivement de la côtelette d'agneau proposée par Marc à Comines, dont je sais que la femme cuisine de la carbonade à la flamande.
Bah, c'est normal.
On est renseigné, évidemment.
Caroline.
En tant que bon frontalier.
Non, Catherine. Pas Caroline.
Vous voulez que je vous présente Eddie et Elodie? La carbonade flamande, c'est elle qui l'a fait, c'est vous qui l'a dégusté. Et en revanche, en contrepartie, je sais que vous faites du lapin.
Oui.
C'est bien ça aussi. À la moutarde?
Oui, tout à fait. Moutarde à l'ancienne.
Ah ouais, j'adore ça. Bon, les côtelettes d'agneau, qu'est-ce qu'on va en faire? Oui, à la bière, c'est parfait. Vous bougez pas, Marc, on va vous faire rêver. Deux recettes originales. Vous allez époustoufler votre femme. Ne lui en dites rien. Vous choisirez la recette et vous lui ferez discrètement sans raconter d'où elle vient. C'est un but partout, évidemment, entre Louise et Jean-Sébastien depuis hier. On commence avec qui? C'est vous qui avez le choix des armes, Marc?
Ah, bah écoutez... Accès aux femmes, Louise, que j'ai suivi dans le meilleur gâteau de France.
Ah, je ne vous la présente plus. 1 minute 30, côtelette d'agneau, vous êtes au pouvoir.
Alors Marc, je vais vous proposer une recette facile à faire, vu que visiblement c'est pas vous qui cuisinez à la maison, mais surprenante. On va préparer des côtelettes d'agneau à la panée à la moutarde et aux noisettes. Est-ce que vous êtes prêts?
Je vous écoute.
Vous préchauffez votre four à 170 degrés. Vous étalez du papier sulfurisé sur votre plaque du four. Vous disposez des noisettes. Vous les enfournez 5 minutes. Donc on appelle ça les torréfier, les griller. Vous retirez la plaque. Vous enlevez la peau des noisettes. C'est pas très très bon en bouche. Vous pouvez maintenant les concasser finement. Vous mélangez vos noisettes concassées avec un petit peu de chapelure, de sel et poivre. Vous prenez vos belles côtelettes d'agneau. Vous les badigeonnez de moutarde fine de tous les côtés. Ensuite, vous passez vos côtelettes d'agneau dans ce mélange de noisettes chapelures pour les paner de toutes les faces. Vous prenez une poêle, vous mettez de l'huile d'olive, poêle anti-adhésive, c'est plus pratique, et vous faites cuire vos côtelettes 7 à 10 minutes des deux côtés. Il faut que les côtelettes soient bien dorées à l'extérieur et un petit peu rosées à l'intérieur. Et puis, avec ça, vu que c'est la saison, vous pouvez faire une belle poêlée d'haricots verts frais, revenue au beurre avec un petit peu d'ail.
C'est pas mal ça. Côtelette d'agneau, panée noisette.
Moutarde noisette.
Moutarde noisette. Je sais pas ce que vous en pensez, Marc.
Ça va, on va voir un peu ce que propose son concurrent.
Je peux vous faire un gâteau aussi si vous voulez.
Ne cherchez pas la pré-vente. J'ai entendu des candidats plus emballés par la recette, je le dis franchement.
Non, ça va, c'est bon, ça me plaît.
Ça vous plaît, mais tout en retenue. Face à Louise.
Non, mais j'attends de savoir ce qui va se passer derrière.
Je comprends ça. Écoutez ça, 1 minute 30, c'est parti, Jean-Seb.
Alors, c'est très compliqué les côtelettes d'agneau parce que c'est un goût qui est tellement subtil qu'il ne faut pas trop les travailler. Moi, je vais vous faire une recette que j'ai découverte au Québec il y a quelques années. Vous allez prendre des abricots secs que vous allez hacher très finement avec des pistaches que vous écrasez. Vous faites effectivement une espèce de panure comme ça et vous rajoutez un tout petit piment de Jamaïque pour que ça pimpe votre affaire. Pendant ce temps, vous faites préchauffer un barbecue. Ces côtelettes, vous allez les saler, les poivrer et vous allez les faire cuire pendant 1 minute de chaque côté au barbecue. À partir de là, vous les nappez sur une seule face avec du sirop d'érable. Vous répartissez abricot pistache et votre petit mélange, votre espèce de petite croûte, vous remettez vos côtelettes d'agneau dans le barbecue, 2 minutes, mais à couvert, et puis vous faites un riz, vous faites des petits pois, par exemple, des petits pois juste comme ça, qui sont passés dans l'eau, qui sont cuits à l'eau, et puis vous servez tout cela avec vos côtelettes d'agneau pour donner un peu de fraîcheur. Vous mettez quelques feuilles de menthe fraîche hachées sur ces côtelettes d'agneau et vous allez voir que le tout va vous donner un mélange qui est à la fois un petit sucré salé, acidulé, mentholé sur la subtilité de la côtelette d'agneau qui est une viande un petit peu sucrée. C'est
attention
pas mal
timing,
tout.
Attention timing, c'est terminé. Je vois Louise dubitative.
Non,
je peux poser une question, Jean-Sébastien ?
Oui.
Le sirop d'érable au barbecue, ça forme une croûte ?
Pas du tout.
On a dit qu'il n'y avait pas de commentaire derrière.
Non, je pose une question.
Non, ça, c'est juste, vous le mettez juste sur une face. En fait, il faut juste mettre un petit coup de pinceau de sirop d'érable, ce qui permet de coller votre mélange abricot-pistache.
D'accord. Marc ?
Oui ?
Côte d'agneau panée, noisette, moutarde. Mm-hmm. Côtelette panée, sirop d'érable, abricot-pistache.
Moi, je prends la moutarde.
Pardon ?
Je prends la moutarde.
Ah, merci Marc !
J'ai envie de dire sans autre forme de procès. Et je vais peut-être me tromper, mais est-ce que vous aimez la cuisine sucrée-salée ?
Oui, tout à fait. Hein.
Ah, parce que je me disais peut-être que c'est pas votre truc, effectivement.
Ou peut-être tout simplement que j'ai du talent.
On mange de tout. Hein.
Ou peut-être que monsieur est élégant et que.
Non, pas du tout.
Ça s'appelle la galanterie.
Non.
Pourquoi cette recette-là ? Pourquoi celle de Louise ?
Parce que je préfère un petit peu la moutarde. J'aime bien le piment du côté de chez Janssen, mais je préfère quand même la moutarde. Donc c'est ce qui a fait un peu pencher la balance.
Il y avait un indice, il fait du lapin à la moutarde, Marc. Donc voilà.
Oui, mais non, je cuisine aussi pas mal, hein, vous inquiétez pas.
Non, vous faites confiance.
Je suis pas mauvais
cuisinier. Vous faites confiance. Bon, ben c'est gagné pour Louise aujourd'hui. Du coup, grâce à vos côtelettes d'agneau. Et je rappelle que vous êtes dans le panier garni pour le tirage au sort de vendredi. Vous jouez, je le rappelle, pour un week-end au cœur du Beaujolais, au magnifique château de Pizet, à la fois un château hôtel 4 étoiles et l'un des plus grands domaines viticoles de la région entre Brouilly et Morgon. C'est l'un des meilleurs restaurants gastronomiques de la région. Donc, on vous appelle peut-être vendredi si vous êtes tiré au sort.
Et le Morgon, c'est très bon à boire. Hein.
Eh ben, le Morgon, c'est très bon. Ouais,
c'est et d'ici là, vous avez gagné une montre RTL et vous avez un guide du retard.
Et un guide du retard de votre choix.
Eh oui,
voilà. Ça marche.
Merci de passer l'été avec nous, en tout cas, Marc.
Merci, Marc.
Ok, merci à vous.
Et à très bientôt. RTL vous régale tous les jours de l'été, 11h, 12h30.
Being sober, my hands are shaking and the nights are lonely. I put my body and my soul through hell for you. Why does it hurt that it's all? I've been drunk for 3 and 15 days. I've got perfume that you wear, and I get a look on your face. I ignored all my worst defeats, and now this lick I won't chase. We'll be right back.
c'est élégant, on adore ça. Ça s'appelle Summer. Kim Borose sur RTL.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Vous voulez des conseils d'amis? Alors écoutez, RTL vous régale tous les jours de l'été sur RTL et en direct avec Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault à mes côtés pour vous donner région par région des indices, des conseils sur ce que vous pouvez, sur ce que vous devez rapporter à la maison. On va vous aider à dénicher les meilleures spécialités, le meilleur du Pays Basque hier, aujourd'hui le meilleur de Mulhouse
et de l'Alsace.
Jean-Seb, s'il y a une saucisse...
Non. Il y a trois. La trinité alsacienne.
Oui.
Veut que ce soit les cigognes.
Oui.
La cathédrale de Strasbourg.
Et la knack.
Et la knack.
Voilà. Moi, je disais saucisse devenue indispensable aux réjouissances populaires.
Non, c'est pas une, ça n'est pas qu'une saucisse, la knack. Je suis désolé.
On est bien au-delà.
C'est historique, c'est un emblème. Ça date de 1575, cette affaire. On ne plaisante pas avec la knack. Vous considérez que c'est indispensable à toutes les réjouissances. On la retrouve dans la choucroute, mais on peut simplement aussi mettre une knack dans un morceau de pain frais.
Oh là là.
Avec un peu de moutarde douce. Un peu de Savora, vous voyez, ou juste un peu de Réfort.
Cette gestuelle est très personnelle.
Je vous le confirme, et puis on est à la radio, donc ça,
voilà,
ça
c'est pour ça que
personne. La knack, c'est qu'une question de savoir-faire, c'est de la technique charcutière, monsieur, parce qu'il faut hacher finement de la viande maigre à laquelle vous ajoutez de la glace. Et tout le secret est là. Vous pilez de la glace avec de la viande maigre, avec des éléments aromatiques, et vous rajoutez le gras du porc. Et puis une fois que la pâte est lisse, vous poussez cette pâte dans le boyau, vous la fumez légèrement, vous l'étuvez et vous la pochez à 75 degrés. Et il est là, le secret de la knack.
Les 75 degrés.
Il ne faut surtout jamais réchauffer la knack dans une eau à plus de 75 degrés.
Là là. Au risque.
Malheur.
Au risque de la voir éclater et elle va se gorger d'eau. Et là, c'est foutu.
Et on peut chialer.
Et Jean-Seb, on devrait se renseigner s'il n'y a pas une confrérie de la knack.
Oui. Vous postulez?
Ah bah oui, il n'y a que plaisir. Ah,
tu m'étonnes. On aurait pu consacrer une émission entière sur les charcuteries alsaciennes.
Mais attendez, il y a 300 charcutiers artisanaux en Alsace. Il y a encore 7 charcuteries industrielles, mais qui font des produits remarquables. Il n'est pas rare de croiser des clients en Alsace qui vont chercher des assortiments, des Ausnitz, comme on dit, qui vont chercher des assortiments chez leurs charcutiers. Ils sont capables de faire 50 km en Alsace pour aller chercher telle ou telle charcuterie. Enfin, c'est
les cervelas,
les gendarmes. La saucisse de foie, mais c'est un truc. Les saucisses à tartiner, c'est fabuleux.
Louise, j'ai un respect immodéré pour les pâtes.
Oui, je sais. Pour aller avec vos knacks, bah vous rapportez des pâtes d'Alsace. Ce sont des pâtes fabriquées avec des œufs, de la farine et du sel, contrairement aux pâtes sèches, aux pâtes italiennes, qui sont fabriquées avec de la farine, de l'eau et du sel. Il existe plus que 3 fabricants de pâtes alsaciennes. Et dans ces pâtes, vous avez notamment les spätzle. Ce sont des pâtes donc alsaciennes aux œufs, mais elles sont plus mouillées, plus molles. Et bon, comment vous les préparez? Vous les cuisez à l'eau comme des pâtes normales, et ensuite vous les faites revenir dans une poêle un peu beurrée pour redonner un peu le croustillant.
Avec un petit beurre qui mousse comme ça.
Ouais, vous avez envie là.
Oh, j'ai toujours rêve. Un mot sur le kirsch, quand même, on est obligé.
Ben oui, on en parlait tout à l'heure avec la forêt noire, c'est l'élément indispensable pour mouiller un peu le biscuit. Le kirsch, cette eau de vie transparente obtenue avec une double distillation de cerises, essentiellement de la guigne comme variété, qui a été des cerises qui ont été préalablement fermentées. C'est un alcool extrêmement populaire en Allemagne, en Suisse, et puis effectivement en Alsace. Et en Franche-Comté également, hein, parce que le kirsch de Fougerolles, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est un alcool qui titre 45 degrés. Faut boire ça avec modération. Mais c'est beau, quoi.
Et c'est bon.
C'est bon.
Louise.
Bah, forcément, le bretzel, c'est une pâtisserie salée traditionnelle et typique de l'Alsace. Et pourquoi le bretzel a cette forme? Il y a l'une des légendes veut que le bretzel soit le fruit du hasard. Il serait fabriqué en 610 par le boulanger de l'abbaye de Saint-Gall en Suisse. Et ce dernier se serait inspiré des moines croisant leurs bras en attendant leur bière pour créer la forme du bretzel.
Vous imaginez le truc, donc les moines se croisent. Oui, c'est vrai, ce que vous dites.
Et vous savez que la magie du bretzel, c'est un peu comme le bagel. C'est bouilli
et cuit au four. C'est d'abord bouilli et ensuite c'est cuit au four et ça donne cette texture si particulière du bretzel frais. Parce qu'il ne faut pas imaginer le bretzel sec qu'on vous vend dans les supermarchés. Hein. Un bretzel, c'est un truc qui est moelleux, qui est craquant, croustillant, qui est servi tiède. C'est pareil, c'est un truc, ça, c'est moi je peux crever pour ça.
On peut évidemment remettre un tout petit peu, une petite couche de Munster dans l'histoire. Mais
évidemment.
Mais c'est dit.
Le Munster, c'est odeur forte et pénétrante dans la fuego, bien sûr.
Ça sentira bon.
Mais c'est ce goût inimitable, ce bonheur absolu. Là aussi, ça vient d'un monastère, puisque c'était un fromage de moine au départ. Et la grande tradition, moi, dans laquelle j'ai été élevé, c'était le jour de la Saint-Nicolas, pour le goûter de 18h. Après le passage de Saint-Nicolas, on avait du chocolat chaud avec des tartines de Munster.
Mon bien cher frère Jean-Sébastien, nous allons religieusement vous écouter dans quelques instants, en direct de l'abbaye d'RTL vous régale, hein, vous allez passer dans la nef. Pour ce petit pas de côté que vous allez faire chaque jour dans cette émission, ce qui clôturera ce programme,
voilà.
Un petit pas de côté qui nous emmène où ?
Juste à côté.
D'où le petit pas de côté.
CQFD. Ça s'appelle du teasing. On vous en parle dans un instant sur RTL. Ne bougez pas.
11h-12h30.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka. RTL 11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Et donc par définition, le pas de côté de Jean-Sébastien Petit-Demange nous emmène...
De l'autre côté.
De Mulhouse.
De Mulhouse. Juste à côté, on va se retrouver à Bâle. Hein, difficile de faire plus proche de Mulhouse. Alors, vous allez me dire, mais tu deviens fou. Ça n'a strictement aucun intérêt d'aller à Bâle. Et je vous répondrai, erreur grave. Bâle est incontestablement la capitale culturelle de la Confédération helvétique. Imaginez qu'il y a plus de 30 musées, dont quelques-uns possèdent d'absolues merveilles. Bâle n'a qu'un problème, c'est une ville dont le logement est cher. C'est pas très grave, c'est juste à côté de la frontière. Quand on veut y aller, on dort en France et on va visiter Bâle. Et puis en plus, vous avez dans le Sungo des balades incroyables à faire. À un moment... Quand vous allez arriver, vous allez tomber dans Bâle sur la cathédrale qui a été construite en grès rose des Vosges. Elle est immanquable avec ses tuiles vernissées. C'est un festival de décoration à l'extérieur qui contraste avec la sobriété qui prévaut à l'intérieur. Et puis au fil des rues, eh bien, vous allez croiser le musée de la pharmacie, par exemple, ou encore le muséum d'histoire naturelle. Il y a un musée de la musique. En gros, il y en a à peu près pour tous les goûts. Mais tout le monde doit voir... Le musée des Beaux-Arts, c'est le musée de tous les superlatifs. C'est le plus riche, le plus prestigieux de Suisse, le plus visité du pays. La collection de peintures de la Renaissance est absolument exceptionnelle. Vous avez une collection de portraits de Holbein qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Vous avez toute la fine fleur de la peinture française du 19e, avec des Cézanne, des Corot, des Delacroix, des Gauguin. Les Van Gogh sont totalement surprenants. Une section consacré à la peinture cubiste de Braque, de Léger, de Picasso. En tout, c'est 3000 œuvres qui composent le fond de ce musée. Et comme en plus, elles peuvent pas être exposées toutes en même temps, elles sont exposées en roulement, donc on peut y retourner régulièrement. Autre musée à ne pas manquer, celui du papier. C'est un an dans le quartier Saint-Alban. Au XIIe siècle, les moines vivaient là-bas. Ils ont construit des douzaines de moulins à papier sur le canal du Rhin. Il y en a un de ces moulins qui a fonctionné jusqu'en 1924. Et on y a aménagé un musée du papier, de l'écriture et de la typographie qui est absolument exceptionnel. À l'heure de l'informatique, c'est une plongée incroyable dans un savoir-faire qui a permis un jour de faire cet objet totalement hallucinant qu'on appelle un livre. Et ça...
C'est bien de s'en rappeler, oui. Mais vous avez raison. Jean-Sébastien Petit-Demange, qui nous fera un pas de côté, donc quotidiennement, dans cette émission.
Tout de suite, retour de RTL vous régale. 11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Eh ben moi, je vous dis que si l'été tarde, en termes de météo, à s'installer sur la France, on est plutôt bien parti dans RTL vous régale pour vous régaler tout l'été, parce qu'on a passé un très très bon moment. Pays Basque hier, Mulhouse aujourd'hui, choucroute, Kouglof, Forêt Noire, Cité de l'Automobile, Marché Couvert de Mulhouse, Musée des Étoiles, la Knack, la Bretzel, la Flamme Cuche, le Munster, le Kirsch. Et la CNAC, je rappelle,
oui.
75 degrés.
Maximum.
Maximum.
Sinon, ça
knack. Sinon, c'est très dangereux. On va où demain?
Dans le Luberon.
Alors, Luberon, il y a des bains.
Non, il n'y a pas des bains.
Il n'y a pas de salle, il n'y a pas deux ambiances, c'est Luberon. Terminé. Michel Thor, elle sera notre invitée. Vous savez qu'elle fabrique sa propre huile d'olive. Elle nous en parlera dans cette émission.